Vous écoutez Radio Panique.
Le tarot contient et exprime tous les principes présents dans notre conscience. À cet égard, il revêt un caractère définitif. Il représente la nature riche de ses infinies possibilités. Dans le tarot, comme dans la nature, il n'y a pas une, mais toutes les significations possibles, lesquelles sont insaisissables et en constante évolution. Le tarot ne peut donc être précisément ceci ou cela. Il change sans cesse en étant toujours le même. Et c'est avec ces belles paroles de Piotr Demianovitch Ouspensky, mathématicien, philosophe et occultiste russe, auteur de « Le symbolisme du tarot », apparu en 1913, que j'ouvre l'émission mensuelle Le Chariot sur Radio Panique, émission qui sera aujourd'hui dédiée à tous les artistes connus ou méconnus qui ont consacré une part de leur existence afin d'étudier et comprendre la profondeur des symboles du jeu de tarot. Bonjour mes chers amis auditeurs, c'est Anna qui vous parle. Bienvenue à cette émission spéciale. En effet, depuis le début de l'émission Le Chariot, je vous parle de ces cartes du tarot qui ont été dessinées et peintes par certains des plus prestigieux artistes de tous les temps. Et il paraissait donc intéressant d'évoquer certains d'entre eux, grands artistes peintres, dessinateurs, illustratrices ou illustrateur, occultiste ou pas, aimant représenter ces symboles qui parlent fort en nous-mêmes quand on en prend le temps de découvrir qu'est-ce que se cache en notre inconscient. Ceux qui observent disent que tout est déjà là. Dans la nature, devant nous, continuons en affirmant qu'il suffirait d'ouvrir grand les yeux pour voir et ouvrir grand les oreilles pour écouter et mettre tous les sens pour ressentir. Il reste certain que cette magie enrichit de plus en plus l'expérience et nous permet ainsi de découvrir les phénomènes de la vie qui peuvent se rendre impressionnants, inattendus, bouleversants. Notre émission d'aujourd'hui se veut donc basée sur les pages du livre « La bibliothèque de l'ésotérisme, volume Tarot » des éditions Tachaine. Depuis l'apparition du jeu de tarot avec la structure que nous connaissons désormais depuis 6 siècles, les artistes de toutes catégories confondues se sont donc intéressés aux cartes et à leurs infinies possibilités. Il est alors intéressant de constater que les dessins et iconographies évoluent et se modifient d'artiste à artiste, influencés qu'elles sont par les croyances personnelles. Celles-ci, de génération en génération, s'adaptent toujours au moment présent. Toutefois, il est curieux de constater que la structure symbolique et numérique reste plus ou moins la même depuis l'origine. Ces cartes se voulant être une espèce de grand livre des connaissances universelles, un outil d'apprentissage en ces archétypes compréhensibles par tous, personnes lettrées et cultivées ou illettrées et béanciennes. Ces cartes offrent un récit alors très organisé qui définit la relation au monde, aux autres et relie à un moi supérieur. Comme bien expliqué dans le livre par moi évoqué il y a quelques instants, ce qui est magnifiquement intact, c'est la structure narrative du tarot, à l'inverse de sa forme, en perpétuelle évolution. Celle-ci résonne avec le parcours de l'être humain au moyen d'un langage universel et symbolique. 600 ans après avoir vu le jour, les archétypes du tarot et l'esprit de l'humanité, comme liés par nos émotions et désirs communs.
Май-май-май, в село-то ту не поезжай, привези нам яблочко, что
моей, и вези нам курочку, чтоб не молиться зубочком. Бай-бай-бай, в село Татуня поезжай, привези нам уточку, чтоб не болеть грудочки. Бай-бай-бай, в село Татуня поезжай, привези нам гусочку, чтоб не болеть гусочку. Татуня, поезжай, привези нам семечек, чтоб не болеть семечку. Бай-бай-бай, в село Татуня, поезжай, привези нам зайчика, чтоб не болеть зайчиком.
Nous venons d'écouter de Chostakovitch une poésie du folklore juif, une mère et une tante aux petits soins. En revenant à notre discours d'aujourd'hui, entrons de plein pied dans le thème qui nous intéresse dans notre émission Le Chariot et parlons donc de ces grands artistes, le premier d'entre eux étant Bonifacio Bembo, peintre et miniaturiste italien du XVe siècle qui dans son atelier qu'il dirigeait accueillait d'autres artistes étant connu et reconnu comme le premier peintre auteur des cartes de tarot Visconti et Sforza, ce fameux premier jeu de tarot dont nous avons la preuve de l'existence, comme nous l'avions déjà mentionné dans la première émission Le Chariot, dont je vous invite à écouter le podcast sur la page de Radio Panique. Le travail agencé par M. Bembo et toute l'équipe de son atelier offre par son symbolisme un intérêt pour le néoplatonisme avec ce style de la Renaissance italienne inimitable que nous pouvons admirer dans plusieurs musées de Milan, Cremona et Brescia. Ces tarots enluminés fascinent encore par leur qualité d'exécution, riches de couleurs et d'or, en faisant des œuvres d'art admirées du public et des spécialistes du monde entier. Mais il existe des superbes estampes de la Renaissance, des cartes inspirées de la mythologie grecque et romaine de l'artiste Mantegna du XVe siècle, qui peuvent être admirées à la Bibliothèque nationale de France et la National Gallery de Washington, qui en possède par ailleurs deux séries différentes. Il semblerait que ces cartes soient plus anciennes que le tarot de Visconti Sforza. Ce jeu possède le nom du peintre et graveur Andrea Mantegna. Toutefois, des doutes existent et persistent à ce sujet. Néanmoins, ces images font référence aux écoles d'ésotérisme et à la démarche platonicienne. Aux côtés des premiers tarots à l'iconographie spectaculaire, ajoutons, mes bien chers amis, le tarot Gringoneur, reconnu et nommé du nom de son créateur, le peintre miniaturiste Jacques-Man Gringoneur, qui aurait conçu celui-ci en 1392 pour le roi de France Charles VIe, tarot conservé actuellement à la Bibliothèque nationale de France. Au travers d'analyses récentes des matériaux effectué grâce aux nouvelles technologies, il apparaît en vérité que ce tarot daterait en fait de la fin du XVe siècle et viendrait du nord d'Italie. Ces arcanes riches en couleurs et en détails multiples se révèlent de véritables œuvres d'art et sont actuellement restaurées et réinterprétées par les spécialistes du tarot Giordano Berti et l'illustrateur Joe Jaworkin et baptisées du nom « Le tarot doré de la Renaissance » édité en 2004. Continuons notre exploration du jour en la mention significative qu'il se trouve que le premier tarot créé à partir des gravures sur métal provient du début de la gravure italienne du XVe siècle, anonyme, pouvant être admirée à Londres au British Museum. Notons qu'en 1907, la famille milanaise Sollabusca possédait une version de ce jeu coloré à la main, transmis de génération en génération. Les dessins figuratifs y illustrant des récits et de personnages de mythes anciens. Les inscriptions de ce tarot Sollabusca comportant des inscriptions en latin et de chiffres romains. Ce tarot a probablement inspiré les illustratrices et occultistes Pamela Coleman Smith pour le jeu de tarot Rider-Waite-Smith ainsi que Lady Freda Harris pour le tarot Thoth du début du XXe siècle. Je vous propose à cet effet d'écouter l'émission dédiée à ces deux tarots sur le podcast de Radio Panique. Mais le tarot qui se veut être la référence mondiale se trouve toujours être le tarot de Marseille, avec son style graphique et ses couleurs chatoyantes bien connues. Les premiers exemplaires de ce tarot sont l'œuvre du maître cartier Jean Noblet du XVIIe siècle, imprimé à Paris à partir des gravures sur bois et autres motifs tirés d'imagerie chrétienne en vogue à l'époque. À partir du XIXe siècle, le tarot de Marseille séduit entre autres les mystiques Eliphas Lévy et Gérard Roncos du Papus. De nos jours, ce tarot continue de séduire la majeure partie de ceux s'intéressant à la matière. L'un des plus connus restant sans aucun doute l'artiste franco-chilien Alessandro Jodorowsky, dont son ouvrage « La voix du tarot » écrit en collaboration avec Marianne Costa, devient un véritable classique. L'évocation du traité était là, ou manière de se récréer avec un jeu de cartes, le tarot, publié en 1770, finit d'ouvrir définitivement la voie au tarot divinatoire, basé sur le tarot de son prédécesseur Antoine Cour de Guébelin. Jean-Baptiste Alliette, plus connu comme Etaila, occultiste français du XVIIIe siècle donc, conçoit quant à lui un jeu de tarot plus imaginatif, avec des personnages et sujets associés à l'astrologie ou l'astronomie. Monsieur Etaila, anagramme d'Alliette, présente le tarot comme un moyen de prédiction, devenant ainsi l'un des premiers à prêter des propriétés divinatoires aux cartes des arcanes majeures, et c'est lui qu'emploie le nom cartomancie pour la première fois. Par ailleurs, vous trouverez à la vente des tarots avec les noms des grands peintres comme le tarot doré de Botticelli, le tarot de Michel-Ange ou de Léonard da Vinci et bien d'autres noms très connus et célèbres. Mais il est pourtant important ici de préciser que ces tarots sont en fait l'invention des éditions italiennes El Scarabeo, éditeur qui utilise les œuvres de ses grands peintres pour proposer de nombreux jeux de tarot à l'iconographie multiple et diverse. El Scarabeo engage de nos jours plusieurs grands artistes pour continuer à proposer toujours plus de diversité dans les jeux de tarot. Ces jeux ne sont donc pas à l'origine imaginés par les illustres artistes de la Renaissance. Malgré la mode répandue de fabriquer à la Renaissance dans les différents ateliers connus, des cartes résolument devenant la commande des commanditeurs qui engageaient ces artistes à cet effet, bien que nous n'ayons pas l'affirmation de toute cette routine créatrice. Bien, chers amis, ne doutez pas, quand la matière, la quête du Graal et de l'alchimie, les découvertes des hiéroglyphes égyptiens et de la divinité égyptienne Thoth, le livre sacré du judaïsme, la Torah, ainsi que la Kabbale, le I Ching, grand livre des mutations ou transformations chinois, et tant d'autres histoires sacrées recueillent et deviennent la grande mode du XVIIIe et XIXe siècle. Nous pouvons ajouter pour compléter cette liste exhaustive de jeux de tarot qui, à cette époque, se sont transformés en cartes divinatoires, époque riche en création et ouverture d'ordres secrets où, le plus souvent, les adeptes devraient inventer leur propre jeu de tarot. C'est ainsi que beaucoup d'artistes se sont mis au travail avec passion, afin de découvrir et d'approfondir la connaissance de la vie et de la sagesse. Nous pouvons alors facilement imaginer la richesse et le foisonnement qui le régnait en ce temps-là, une créativité tout azimut. Signalons qu'aujourd'hui, plus que jamais, prédire le futur n'apparaît pas le rôle primordial de ces cartes du tarot, celles-ci se voulant être un outil d'exploration de soi et un guide d'évolution personnelle. Et comme le dira le renommé Carl Jung, votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver, celui qui regarde en soi se réveille. Faisons une petite pause musicale en vous proposant aujourd'hui l'écoute de deux morceaux de El Amor Brujo d'Emmanuel de Falla, dont voici le premier.
Candela que arde, más arde el infierno que torca mi sangre, abrasada de celos. Ay, cuando el río suena que querrá decir. De mí, cuando el fuego abraza, cuando el río suena, si el agua no mata el fuego, a mí el penar me condena, a mí el querer me envenena, a mí me mata.
Nous avons écouté un extrait du ballet pantomime El Amor Brujo d'Emmanuel de Falla, ici interprété par Teresa Berganza, accompagnée de l'orchestre du Théâtre d'Opéra Real de Madrid sous la baguette de Gomez Martinez. Je voudrais maintenant vous raconter une petite anecdote au sujet du peintre espagnol et l'un des principaux représentants du surréalisme Salvador Dalí dans les années 70. Saviez-vous, mes bien chers amis, que celui-ci créa un jeu complet de tarot avec 78 cartes? Eh bien oui, et avec quel talent! Ne soyez donc pas étonnés si dans un magasin spécialisé, vous tombez nez à nez sur ce jeu avec les peintres représentés en qualité de magicien ou l'arcane de numéro 1, plus connu en tant que le battleur, entre les arcanes majeurs, et le roi de Denier, figure des arcanes mineurs. Sa femme Gala, grande amatrice du tarot quant à elle, se voit représentée en qualité d'impératrice ou arcane de numéro 3. L'histoire raconte que le producteur Albert Broccoli avait commandé au grand peintre un jeu de tarot pour le film « Vivre et laisser mourir » en 1973 avec Roger Moore. Mais Dalí avait demandé un prix beaucoup trop élevé et le producteur a décidé d'inviter un autre artiste à effectuer le travail. Cela n'a pourtant pas empêché le célèbre peintre de produire son propre tarot qui a été publié en 1984, vendu comme deux petits pains en quelques jours, mais avec sa propre version de James Bond, sans Roger Moore, mais avec Sean Connery en tant que l'empereur. L'arcane de numéro 4, entre les arcanes majeures. Petite vengeance personnelle de l'artiste aux fameuses moustaches qui affirmait que la gare de Perpignan était le centre du monde. Et voici un deuxième morceau de El Amor Brujo d'Emmanuel de Falla avec la grande mezzo-soprano Teresa Berganza.
Tu eres a
ella te daba, tú no te lo merecías. ¿Quién lo había de decir que con otra lo vendía?
Chers amis, saviez-vous qu'il existe un jeu de tarot gigantesque en plein air en Italie? Et oui, ce tarot à dimension surhumaine, constitué de mosaïques très colorées avec ses facettes miroitantes, peut être admiré dans un jardin à Garavicchio de Pescia Fiorentina, en pleine Toscane, autrement dit, quelque part entre Florence et Rome, au cœur de l'Italie. Ce tarot, dans un envoûtant décor multicolore, a été imaginé par l'artiste française de renommée internationale, Niki de Saint-Phalle, plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice de films franco-américains, née en 1930, qui s'inspirant de l'œuvre d'Anton Gaudi et ses folles architectures à Barcelone, décide quant à elle de bâtir son jardin fait de sculptures monumentales en choisissant comme thème les 22 arcanes majeurs du tarot, sur un terrain mis à disposition par un couple d'amis. L'artiste elle-même mettra une vingtaine d'années à faire aboutir les travaux menant à la réalisation de son jardin qu'elle habitait. Voyez-vous le luxe et l'originalité dans une de ses sculptures, l'arcane de numéro 3, l'impératrice, dont l'intérieur est entièrement aménagé en appartement recouvert de mosaïques miroitées. Il est à souligner que dans les années 60, Niki de Saint-Phalle fut l'une des premières femmes issues du pop art, mouvement dominé alors par le genre masculin. Et donc, ne dérogeant pas à notre désormais tradition, voici, afin de finir l'émission, l'arcane du jour. C'est l'arcane du numéro 3, l'impératrice. Le verbe, le ternaire, la plénitude, la fécondité, le naturel, la génération dans les trois mondes symbolisent l'impératrice, une femme ailée, couronnée, assise et tenant au bout de son sceptre le globe du monde. Elle a pour signe un aigle, image de l'âme et de la vie. C'est la quintessence mystique du ternaire, la spiritualité, l'immortalité, la reine du ciel. Ces magnifiques mots, pour désigner l'impératrice, se trouve dans l'œuvre d'Eliphas Lévy qui s'intitule « Dogme et rituel de la haute magie » de 1856. Quand on parle de l'impératrice, on parle d'amour inconditionnel de la mère, de la grande mère, le féminin sacré, celle qui sait donner, qui nourrit sa progéniture ou son peuple et qui, dans une entreprise, est la bonne directrice qui pense à tout et à tous sans avoir de favoris. C'est le grand symbole du féminin, le savoir parler le mot juste au bon moment et qui aura toujours un mot confortant et bienveillant pour tout le monde en toute occasion. L'impératrice, c'est l'arcane qu'il faut envisager lors d'un tirage du tarot si vous voulez vous marier et fonder une famille. Arcane majeure très positive, elle génère pour accoucher 9 mois après la définition d'un processus, d'une préparation, d'un projet déjà sur la table qui s'élabore avec attention et amour, car l'impératrice symbolise la création, elle nourrit, c'est la protectrice de sa progéniture en qualité de gardienne des siens. Voici comme toujours les mots clés. Cette fois-ci, pour l'impératrice, féminité, beauté, sensualité, fertilité, abondance, nature, créativité, réalisation, stabilité, calme et tranquillité, prospérité, responsabilité, communication, raisonnement clair, douceur, mais avec autorité, confiance, courage. Cette carte signifie l'obligation de donner. Cet arcane est lié au printemps et au début de l'été. Elle est la source généreuse et s'occupe de sa famille ou de son royaume. Si vous êtes devant cette carte dans un tirage de tarot, sachez que tout devient possible. Mettre en pratique vos idées, communiquer vos pensées, ne pas vous isoler, partager vos idées avec autrui. C'est le moment d'agir avec les bonnes pensées et la confiance en soi. S'il y a tension dans un couple ou dans le domaine professionnel et que vous choisissez cet arcane au moment d'un tirage, celle-ci vous dira que le moment de dialoguer avec votre ou vos partenaires est venu. Mot à retenir, raisonnement. Si vous êtes en quête de votre destin professionnel et que cet arcane apparaît lors d'un tirage, celui-ci vous indique qu'il est peut-être temps de trouver une activité dans les sciences exactes. Pour la santé, faites attention à vos nerfs et au stress. Pour l'amour, la condition socio-économique du ou de la partenaire sera de grande importance au moment de faire un choix. Personne a tendance d'être propriétaire d'entreprise, femme ambitieuse. Le numéro 3 de cet arcane représente donc l'harmonie parfaite, l'équilibre et la manifestation matérielle de toute idée. Conseil de l'impératrice, sortez vos projets du tiroir et mettez-les en pratique. Cet arcane est aussi celui des bons auspices pour les musiciens. Voilà, chers amis auditeurs, ce que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Notez dans votre agenda le 4 octobre prochain le chariot, car c'est notre prochain rendez-vous toujours à 14h30 sur Radio Panique. Restez bien sûr avec nous à l'écoute des Teratomes et les joyaux de la musique électronique et hip-hop. Bon amusement et à bientôt. Au revoir. Thank you.